Les secrets
du musée des Augustins.
Chut. Il crache du feu !
Où l'on découvre un parallèle historique explosif.
Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. Pierre-Henri de Valenciennes, originaire de Toulouse, comme son nom ne l'indique pas, séjourne en Italie. Il a entrepris ce voyage pour parfaire son apprentissage de la peinture, comme le font bien d'autres jeunes artistes de son temps. S'il réside principalement à Rome, il s'aventure également dans d'autres contrées, comme la Sicile ou Naples. C'est d'ailleurs dans cette ville du sud du pays qu'il va assister à un événement exceptionnel. Durant ses années italiennes, il arpente la campagne avec ses pinceaux pour réaliser de petites toiles tirées directement de ce qu'il a sous les yeux. Car ce que Valenciennes aime peindre par-dessus tout, ce sont les paysages. Ça tombe bien, Naples lui offre une vue incomparable sur le Vésuve, un majestueux volcan. Majestueux mais dangereux. Valenciennes le découvre de ses propres yeux, en étant témoin d'une impressionnante éruption qu'il décrira comme « le spectacle le plus terrible et le plus magnifique que puisse présenter la nature ». Coïncidence étrange, ce phénomène auquel assiste notre peintre survient exactement 1700 ans après l'éruption du même volcan. En l'an 79 de notre ère, il a anéanti les villes de Pompéi et d'Herculanum. Ce hasard du calendrier a sans doute marqué Valenciennes. Lorsqu'il décide de représenter le Vésuve déchaîné, crachant d'immenses flammes rouges et de la lave en fusion, il ajoute à la scène un personnage historique. On l'aperçoit au premier plan, dans le bas du tableau. Il s'agit du savant écrivain Pline l'Ancien, qui, d'après les récits antiques, trouva la mort en 79, asphyxié par les cendres rejetées par le volcan. Notre peintre, heureusement, a eu plus de chance. Oh la chouchoute !
Où l'on rencontre une reine qui a ses petits préférés. Nous voici à Paris, en 1785, auprès d'Élisabeth Vigée-Lebrun. Elle est alors l'une des artistes les plus en vogue à la cour de France. Portraitiste attitrée, protégée et confidente de la reine Marie-Antoinette, elle croule littéralement sous les commandes. Toute la noblesse du royaume veut se faire peindre par cette jeune femme. Dans son abondante production, le portrait de la baronne de Crussol est sans doute l'un des tableaux les plus charmants. De dos, visage tourné, la belle aristocrate tient une partition de musique. Vigée-Lebrun a pris soin de peindre précisément les notes. De cette façon, on peut reconnaître Écho et Narcisse, un opéra de Gluck. Et ce détail n'est pas là par hasard. Car Gluck est le musicien préféré de la reine Marie-Antoinette. Il est même l'ancien professeur de clavecin de la jeune autrichienne. Le compositeur allemand se réjouit de cette situation car l'appui de la souveraine lui permet de s'installer quelques années en France. En reproduisant patiemment les notes de la partition, Vigée-Lebrun adresse donc un clin d'œil à Marie-Antoinette. La peintre aurait pu choisir un autre opéra cependant, car celui-ci est un terrible échec. Gluck en est si dépité qu'il quitte définitivement Paris. Et parmi les nombreuses critiques que le peuple murmure à l'encontre de la soi-disant trop dépensière Marie-Antoinette, il y a celle d'imposer la musique allemande aux Français. Tout cela va mal finir pour la reine et son époux. Vigée-Lebrun passe elle aussi pour une flambeuse. On dit de ses soirées qu'elles sont les plus fastueuses de Paris. Mais elle s'en tire mieux que sa royale amie. Fuyant Paris au premier signe de la Révolution, elle poursuit sa carrière avec succès dans toutes les cours d'Europe.
Nouveau look pour une nouvelle Pietà!
Où l'on rencontre une sculpture qui dévoile son vrai visage.
En 2011, la Pietà des Récollets mène une vie de star. Tout juste revenue de Paris, où elle a été prêtée pour une exposition au Grand Palais, la voilà qui participe à une autre rétrospective, à domicile cette fois, au musée des Augustins. Il faut dire qu'elle connaît une seconde jeunesse, car cette Pietà n'a pas toujours eu ce teint frais. Jusqu'à récemment, elle était même recouverte d'une épaisse couche grise. En cause, des siècles de repeints et de salissures qui s'étaient accumulés depuis sa création, en 1510. C'est pourquoi le musée demande à deux restauratrices de s'occuper de cette sculpture qui fait triste mine. Leur travail de fourmi permet petit à petit de révéler la polychromie d'origine, c'est-à-dire ses multiples couleurs peintes sur le bloc de pierre calcaire. Le doré des chevelures, le bleu azur, le vert profond et le rouge chatoyant des tenues sont un plaisir pour les yeux et redonnent tout son sens à l'œuvre. En effet, certains détails comme les plaies rouges sur le corps du Christ et les larmes qui coulent sur le visage des trois autres personnages ne sont pas sculptés. Ils étaient ajoutés à la peinture mais ne se voyaient plus sous la crasse. Sans ces éléments, impossible de saisir complètement le caractère dramatique et douloureux de la scène. Le Christ vient d'être descendu de la croix, la Vierge et les deux saints à ses côtés le pleurent à chaudes larmes. Une telle redécouverte méritait bien que l'on déroule le tapis rouge à notre Pietà.
Arrière, Satan !
Où l'on fait la connaissance d'un moine tourmenté. Nous sommes dans le couvent toulousain qui deviendra, à la Révolution, le musée des Augustins. Mais en ce milieu de XVIIe siècle, il est encore occupé par une communauté de moines. L'un d'eux, Ambroise Frédo, est également artiste. Plusieurs de ses œuvres peintes et sculptées pour le couvent s'y trouvent encore aujourd'hui. L'une d'elles est particulièrement intrigante. Frédo y représente un autre moine, qui a lui aussi vécu dans ce couvent des Augustins quelques siècles plus tôt. Comme on peut le lire en haut de la toile, il s'agit d'un certain Guillaume de Tolose. Et il n'est pas tout seul. D'horribles démons l'attaquent. D'après les textes, frère Guillaume aurait été assailli par ces créatures de cauchemar qu'il aurait vaillamment combattues. Les démons sont peints par Frédo comme d'effrayantes créatures, mi-animales, mi-humaines. Leur gueule béante laisse apparaître des langues pointues et des dents effilées. Torches enflammées, gourdins à la main, elles attaquent de leurs griffes acérées le pauvre homme dont le front est déjà ensanglanté. Et malgré tout cela, ce dernier se montre exemplaire. Imperturbable, il prie, tandis qu'une lumière divine illumine sa tête. Le plus étrange dans cette histoire, c'est que ces monstres sont vêtus d'habits de moine. Et plus précisément, les robes que portent les Augustins. Sachant que cette œuvre décorait sans doute le réfectoire du couvent dans lequel les frères venaient chaque jour, on peut y voir un avertissement pour les religieux. Soyez prudents, ne cédez jamais au vice et à la tentation. Le clou du spectacle.
Où l'on rencontre un peintre qui a le sens du détail. Nous voici à Meknès, en 1832. Le peintre Delacroix accompagne une délégation diplomatique envoyée au Maroc. Il a reçu une mission, celle de rapporter un témoignage illustré de ce pays encore mal connu des Français. Cette opportunité unique de découvrir l'Orient dont il a tant rêvé, l'artiste s'est empressé de la saisir. Et il n'est pas déçu du voyage. Loin de tout ce qu'il avait pu imaginer, c'est un choc esthétique. Delacroix observe, note et dessine le moindre détail. Il est totalement subjugué. Lors de la grande négociation avec le sultan, dont on veut obtenir l'appui pour la conquête de l'Algérie, il ne lâche pas son carnet. En quelques traits, il esquisse la scène, en n'oubliant pas de représenter l'étrange parasol au-dessus du souverain à cheval. Cela lui donnera un élément visuel intéressant quand il peindra le tableau. Il ne se doutait peut-être pas que 13 années passeraient avant que cela n'arrive. En 1845, la délégation française, qui avait sa place dans le dessin d'origine, ne l'intéresse plus du tout. Il concentre son attention sur le sultan et son parasol. Et oui, cet accessoire, qui était à peine perceptible sur la première composition, a maintenant une place centrale dans le tableau. Il se détache nettement sur le bleu du ciel et culmine au-dessus de la mêlée, dépassant allègrement en hauteur les armes des soldats. Avec Delacroix, cet objet est devenu le symbole visuel du pouvoir du sultan. Comme son parasol, ce souverain domine tout ce qui l'entoure.